Asseyez-vous quelques instants. Mes chers amis, lorsque nous nous retrouvons avec des proches, avec des amis que nous aimons autour d'une table, à un moment ou à un autre, c'est inévitable, nous refaisons le monde. Eh oui, en début, en fin de repas, peu importe, c'est toujours comme ça que ça se passe. Avec Jésus, il y a une différence notoire. Jésus aime partager sa table avec ses apôtres. Vous aurez peut-être noté le nombre considérable de repas qu'on nous rapporte où Jésus se trouve au milieu des siens. Il se trouve que Jésus aime la table. Tant mieux. Nous sommes heureux de servir un maître qui aime la table. Mais le Seigneur Jésus, lui, ne se contente pas de refaire le monde autour d'un verre. Lui opère le salut du monde à chaque fois qu'il partage un repas, du moins à chaque fois qu'il y a un repas relaté dans l'Écriture. Je veux parler par exemple du repas de Cana, où Jésus réalise son premier miracle et où Jésus explique des réalités très profondes. Son heure n'est pas encore venue. Il nous montre le rôle puissant de la Vierge Marie qui est médiatrice à son égard et pour le bénéfice des hommes. Il y a un autre repas de l'Écriture dont nous avons parlé il y a assez peu de temps, le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, que se passe-t-il ? Eh bien, rien moins que l'institution du sacerdoce catholique, l'institution de l'Eucharistie. Il y a ce lavement des pieds où Jésus montre la logique qui doit prévaloir dans l'Église, c'est-à-dire une logique de service. Plus vous serez élevé dans les ordres et plus vous serez serviteur. Il y a enfin ce repas d'aujourd'hui qui n'échappe pas à la règle. Il s'y passe quelque chose de très profond. Jésus avance un peu plus dans l'économie du salut puisque ce repas débouche sur la spectaculaire ascension du Seigneur dans son corps et dans son âme à la droite de son Père. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Si toutefois Jésus vous invite à passer à table avec lui, faites très attention. Parce que, inévitablement, il y a dans chaque repas passé avec le Seigneur Jésus deux dimensions. Une dimension exaltante, une dimension éblouissante. D'abord, la joie d'être avec le Fils de Dieu, bien sûr, qui parle avec autorité, qui a ce regard qui vous bouleverse, ses paroles consolantes, bien sûr. Il y a dans chacun des repas avec Jésus, dont je viens de vous parler, un miracle, quelque chose d'absolument formidable. À Cana, c'est l'eau qui devient du vin. Le Jeudi Saint, c'est un peu de pain, un peu de vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Et aujourd'hui, l'ascension, c'est l'élévation majestueuse du corps du Christ auprès de son Père. Mais, car il y a un mais, à chaque fois, un retour de bâton, en quelque sorte, accompagne chacun de ces éléments réjouissants des repas passés avec Jésus. C'est une mise à l'épreuve radicale que le Seigneur déploie dans chaque repas qu'il prend avec ses apôtres. Quand vous considérez Cana, que dit-il à sa mère ? « Femme, que me veux-tu ? » Imaginez le trait pour le cœur de sa mère. « Femme, que me veux-tu ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Vous connaissez par cœur, parce qu'on vous le répète chaque année, le fait que cette parole, c'est celle-là même qu'emploient les démons à l'égard de Jésus. « Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» C'est cette parole même qu'utilise Jésus à l'égard de Saint-Pierre, quand Saint-Pierre veut lui épargner la passion. « Arrière, Satan, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Vous voyez qu'on a une teneur assez peu sympathique dans cette parole. Le même jour, à Cana, il demande, il exige une confiance radicale des serviteurs quand même. Il leur demande d'apporter des jarres remplies d'eau auprès du maître de la maison, faisant passer cela pour du vin. Il fallait que les serviteurs aient une certaine confiance dans le maître, quand même. Le jour du Jeudi Saint, ce repas du Jeudi Saint, il appelle à l'humilité. Est-ce que c'est facile pour les apôtres d'apprendre qu'en même temps qu'ils seront les chefs de l'Église, ils devront en être comme les esclaves, jusqu'à laver les pieds du dernier, et jusqu'à laver les pieds du traître, de Judas. Il y a une annonce d'un départ violent, le Jeudi Saint. Votre cœur est dans la tristesse. C'était l'évangile le dimanche dernier. Votre cœur est dans la tristesse. C'était il y a un peu plus, c'était le dimanche d'avant encore. Le jour de l'ascension, que se passe-t-il sinon un reproche, et un reproche vigoureux contre l'incrédulité des apôtres. Le début de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus leur apparut et directement il les blâma de leur incrédulité et de leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas voulu croire les témoins de sa résurrection. Vous voyez que le Seigneur, en même temps qu'il console, en même temps qu'il fait des miracles, qu'il nous éblouit, à chaque repas, donne une bonne claque de l'autre main. Que se passe-t-il avec ce repas de l'Ascension, sinon, eh bien, cet ordre incroyable, complètement insensé au plan humain, d'aller évangéliser toutes les nations. Imaginez un peu la frousse que les apôtres ont dû ressentir lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus s'élever dans les airs, et eux, avec cette feuille de route, que Jésus ne cessait, du reste, de réitérer depuis quelque temps. Ce qui est étonnant, néanmoins, c'est que, à la fin de ce repas, et avec le départ de Jésus dans les cieux, bien loin d'être dans l'inquiétude, peut-être que cette frousse a duré un instant, mais elle n'a duré qu'un instant, parce que dans la suite du récit des Actes des Apôtres, qui n'est pas compris dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans l'Épître d'aujourd'hui, que lit-on ? Ils étaient dans la joie. Ils glorifiaient Dieu, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'allégresse. C'est quand même très paradoxal que, en dépit de ce nouveau départ du Maître, il y a eu ce départ du Vendredi Saint, et voilà un nouveau départ qu'on leur impose, ils soient dans la joie. C'est étonnant qu'en dépit des frustrations de leurs aspirations politiques, est-ce que vous avez vraiment prêté l'oreille à l'Évangile d'aujourd'hui ? Ils demandent à Jésus quand est-ce qu'il va restaurer la royauté davidique. Mais ils n'ont rien compris. Jésus est ressuscité, il leur apparaît pendant 40 jours, et voilà où ils en sont, ces têtes, ces caboches, ces têtes de bois. Ils attendent encore le retour d'un souverain politique. Et Jésus, d'emblée, d'un revers de main, écarte cela. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Contentez-vous d'aller témoigner de moi auprès de toutes les nations. Voilà ce que je veux pour vous. Vous voyez cette frustration. Eh bien, ils sont dans la joie, même si leurs aspirations politiques ne sont pas exaucées par le Seigneur. Même si la mission qui leur est confiée tient de la mission impossible, ils sont dans la joie. C'est quand même très étonnant qu'ils soient dans la joie alors qu'il y a autant de motifs, normalement, à regard humain, d'être dans la peine. Qu'est-ce qui fait que les apôtres soient dans la joie le jour de l'Ascension ? Est-ce qu'ils auraient abusé de ce petit vin clairé qu'ils versaient à table, depuis Cana ? Je ne pense pas, évidemment. Ce qui fait leur joie, c'est l'accroissement de leur foi. Voilà ce qui se passe, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ils ont, le jour de l'Ascension, un accroissement exponentiel de leur foi. Le Saint-Esprit leur fait enfin comprendre, il a fallu du temps, il leur fait enfin comprendre le discours de Jésus du Jeudi Saint. Il est nécessaire pour vous, il est bon pour vous que je m'en aille. Là, voyant Jésus s'élever dans les airs, et après un moment d'apesanteur, de stupeur, ils réalisent enfin, alors que l'Esprit Saint ne l'aurait pas encore donné en plénitude, puisqu'il faudra attendre 10 jours de plus pour cela, ils réalisent enfin, ils comprennent ce que Jésus a voulu leur dire. Ils comprennent qu'à partir de l'Ascension du Seigneur, de son départ de la terre, eh bien, Jésus ne se rend pas inaccessible. Jésus ne nous prive pas de sa présence, mais Jésus nous propose une autre présence, une nouvelle manière d'être présent à ses proches. Et en réalité, une manière plus intime, une manière plus étroite, c'est vrai. Réfléchissons à ce qui se passe. Avant la mort de Jésus sur la croix, ils avaient à côté d'eux leur rabbi extraordinaire en chair et en os, et ils pouvaient jouir de sa présence, voilà, de son enseignement, de ses consolations, de ses miracles, tout ce qu'on veut. Oui, mais Jésus était circonscrit dans un lieu à un moment précis. Le Verbe éternel avait accepté, si l'on veut, de se mettre dans cette espèce de petit contenant, petite boîte, qui n'était qu'en un endroit et pas en plusieurs à la fois. Jésus n'avait pas l'ubiquité dans sa nature humaine. Vous voyez qu'il était limité, sa présence était limitée. Il était auprès de Pierre, il n'était pas auprès de Jacques. Il était en tel point de la Galilée, il n'était pas à Jérusalem. C'est une limite pour les proches du Seigneur, qui auraient voulu tous pouvoir jouir de sa présence. Il n'était pas possible d'être toujours en présence du Seigneur. Après la résurrection de Jésus, même si son corps est glorieux, c'est-à-dire qu'il est spirituel, qu'il a la faculté de se déplacer très vite, de se manifester en tel ou tel endroit, le corps glorieux de Jésus n'est pas partout en même temps. Mais à partir de l'Ascension, lorsque Jésus monte définitivement à la droite de son Père, alors il est partout. Il est, c'est vrai, avec son corps et son âme humain, complètement spiritualisé, il est le Verbe éternel, capable de se manifester, alors pas de manière sensible, encore qu'il puisse le faire, mais de se manifester au plus intime de chacun de nos cœurs. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ou lorsque tu veux prier, ferme la porte sur toi, prie dans le secret. Et sous-entendu, je suis là, moi Jésus. Vous voyez, les apôtres comprennent à partir de l'ascension que bien loin de devoir s'attrister, au contraire, ils doivent se réjouir. Parce que leur cher Jésus, dont ils ont été séparés un temps, ces trois jours saints qui leur ont coûté et qui les ont taillés, eh bien, au contraire, Jésus, après ces trois jours saints, est là avec eux, comme il le disait le jeudi saint, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas avec vous en général, je suis avec toi, 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 jusqu'à la fin des temps. Et s'il n'y avait pas eu le départ de Jésus au ciel et l'ascension, cela aurait été tout simplement impossible. Voyez donc le don inestimable que Jésus fait à ses apôtres, tout en s'éloignant d'eux, il est en réalité plus proche d'eux. Et on a cette parole frappante de l'évangile de Saint Jean qui résume très bien cela, « Je m'en vais et je viens à vous ». C'est étonnant, vous ne me demandez pas où je vais, je m'en vais et je viens à vous. Si les apôtres n'avaient pas eu l'événement de l'ascension comme clé de lecture, ils n'auraient rien compris. Nous qui jouissons de ce recul de la tradition, cette interprétation, cette méditation des siècles de moines, de moniales, de théologiens ou de gens tout simples qui ont pu comprendre cela, eh bien, soyons mes frères, nous aussi dans la joie. Le Seigneur qui aujourd'hui monte au ciel, le cierge éteint à la fin de l'évangile, en est le symbole tout simple. Si Jésus est monté, nous n'avons pas à jalouser les apôtres qui ont eu sa présence, à jalouser ceux qui, sur les chemins de Galilée, ont été touchés par Jésus. Nous n'avons pas à jalouser ces gens-là parce que Jésus, en s'éloignant de nous, nous élève en réalité à une relation plus intime encore à lui que ces personnes qui ont pu frayer avec lui, manger avec lui. Voilà cette, la cause de notre joie d'aujourd'hui, qui sera encore comblée davantage avec ce dimanche de Pentecôte qui arrive dans 10 jours. Et pour pouvoir jouir de tous ces fruits de la Pentecôte, eh bien, je vous invite à avoir recours à la neuvaine au Saint-Esprit, ces 9 jours préparatoires ou ces 8 jours préparatoires et le jour de la Pentecôte, pour vraiment que notre cœur, dilaté par cette joie de l'ascension, Jésus plus loin de nous pour être plus proche de nous, puisse jouir non seulement du Christ, mais aussi de tous les dons que le Christ, trimballe avec lui, que le Christ a dans son sillage, que sont les dons du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.